Jean d'Histoire.
Merci Nathalie et bonjour à tous. Aujourd'hui, une des figures les plus populaires et les plus étranges de la Bible, Marie-Madeleine. Le Seigneur aimait Marie plus que tous les disciples et il l'embrassait souvent sur la bouche. Les disciples lui dirent « Pourquoi l'aimes-tu plus que nous ?» Évangile apocryphe de Philippe. Ans d'histoire. Même si elle n'apparaît que trois fois dans le Nouveau Testament, Marie-Madeleine en est une des figures les plus fascinantes, au point d'inspirer encore 2000 ans après sa mort des livres ou des films très controversés qui ont fait d'elle un personnage central du christianisme et même dans un film de Martin Scorsese ou dans le Da Vinci Code de Dan Brown. L'épouse secrète de Jésus et la mère de ses enfants. On peut comprendre l'indignation du Vatican, même si les évangiles ont accordé eux aussi suffisamment d'importance à Marie-Madeleine pour en faire, avant les apôtres, le premier témoin de l'événement qui allait donner naissance à une religion nouvelle, la résurrection du Christ.
Marie.
Pierre, écoutez tous. Je l'ai vu là-bas.
Tu as vu qui ?
Le maître.
Tu as vu le maître ?
Oui. Il est ressuscité. Vous ne me croyez pas. Je vous dis que je l'ai vu. C'était lui, notre Seigneur !
Marie.
Je l'ai vu, Jean. Je l'ai vu. Il est ressuscité.
Vous n'avez pas voulu la croire. Quand le maître a rappé à la vie la fille de Jérus, vous n'avez pas cru non plus.
Mais enfin, tu ne vas pas dire que tu crois son histoire.
Régis Burnet, bonjour.
Bonjour.
Alors c'était Marie-Madeleine, premier témoin de la résurrection du Christ, ce qui fait d'elle évidemment un personnage essentiel de la Bible, mais aussi de toute une littérature plus ou moins sérieuse, dont un livre dont le succès est international, on le sait, le Da Vinci Code, dans lequel Dan Brown imagine Marie-Madeleine mariée à Jésus et mère de ses enfants. Et c'est en partie de ce roman de Dan Brown, je crois, qui vous a poussé à écrire vous aussi un livre sur Marie-Madeleine qui n'est pas à proprement parler une biographie.
Ah non, c'est pas du tout une biographie de Marie-Madeleine. Ce qui m'intéressait de voir, c'était pourquoi cette figure qui a longtemps été le bras armé de l'Église, enfin l'Église s'en est beaucoup occupée, l'a présentée comme un modèle à tous les chrétiens. Pourquoi donc cette figure-là, à partir d'un certain moment, est devenue une sorte de figure contestatrice, en particulier dans le Dan Brown, qui fait une charge contre l'Église, qui aurait, soi-disant, dissimulé la vérité à tous ses fidèles.
La vérité étant que, on peut la trahir, c'est que elle est donc l'épouse secrète de Jésus et qu'avec lui, elle aurait eu des enfants qui seraient en fait les rois mérovingiens.
Hein. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est à proprement parler, selon Dan Brown, le Saint Graal, puisqu'elle porte le sang de Jésus dans son sein, enfin de manière concrète. Et donc voilà, Dan Brown en fait une sorte de d'icône de la féminité et aussi une sorte de divinité cachée, si vous voulez.
Alors c'est vrai qu'on peut beaucoup broder sur la vie de Marie-Madeleine, d'abord parce que tout simplement les évangiles, en tout cas ceux qui sont reconnus, pas les évangiles apocryphes dont on a entendu un extrait, mais ceux qui sont dans la Bible, en parlent relativement peu et surtout il y a confusion, souvent vous le dites, entre trois femmes dans les évangiles qui pourrait être Marie-Madeleine.
Oui, à proprement parler, Marie-Madeleine n'existe pas. Ce qui existe, c'est une série.
Il faut s'en aller pour arrêter l'émission.
C'est une série de femmes qui ont été ensuite mises ensemble sous le nom de Marie-Madeleine. Vous avez une première femme qui est Marie de Magdala. Marie de Magdala fait partie de ces femmes qui accompagnent le Christ tout au long de son trajet terrestre.
Magdala étant une ville.
C'est une ville sur les bords du lac de Tibériade. Mmh. Et donc, elle fait partie de ces pieuses femmes qui l'assistent de ses deniers. Et il est probable probable d'ailleurs que le groupe apostolique, le groupe de Jésus, a été sponsorisé, pour employer un terme moderne, par ces femmes, et qu'on retrouve à la fin de la vie de Jésus, au pied de la croix. Elle fait partie des fameuses saintes femmes qui sont restées, alors que tous les hommes se sont enfuis.
Et de laquelle, disait l'évangile de Luc, sept démons seraient sortis. Est-ce que c'est elle dont on dit qu'elle était une prostituée?
Alors celle-là, non, c'est la troisième Marie, c'est la pécheresse qui se trouve dans l'évangile de Luc.
Il y en a une autre après Marie de Magdala, donc en tout cas de laquelle sept démons seraient sortis, ça c'est ce que dit Luc. Il y a Marie de Béthanie qui est la sœur de Marthe et de Lazare.
Oui, alors elle, on la retrouve dans trois épisodes. Le premier épisode, c'est lorsque Marthe, sa sœur, s'active à la cuisine et qu'elle est pieusement assise au pied de Jésus, et donc Jésus le réprimande Marthe. On la retrouve ensuite au moment de la résurrection de son frère. Et puis dans un troisième épisode qui a expliqué un peu cette confusion entre les différentes Maries, où juste avant la Passion, juste avant la montée à Jérusalem, au cours d'un repas, elle brise un vase de parfum sur les pieds de Jésus.
Et puis enfin, il y a la pécheresse donc qui fait un jour irruption dans un banquet chez le pharisien Simon pour se précipiter aux pieds de Jésus, sur lequel elle verse des larmes et suit ses pieds avec ses cheveux et répand sur lui un parfum.
Laissez-moi passer !
Qu'est-ce qu'il y a ?
C'est un scandale. Cette
femme.
Que vient-elle faire ici ?
Comment ose-t-elle entrer ici ? Elle le souille.
Simon, assieds-toi.
Mais Rabbi, sais-tu de quel genre de femme il s'agit ?
Je t'en prie, Simon. Simon. Je suis arrivé dans ta maison et tu n'as point versé d'eau sur mes pieds, ni donné le baiser d'accueil, ni versé l'huile sur ma tête. Elle a mouillé mes pieds de ses larmes, les a essuyés avec ses cheveux et les a oints de parfum. Ma fille, tes péchés, et je sais qu'ils sont nombreux, te sont pardonnés, car tu as beaucoup aimé.
Et c'était un autre extrait du Jésus de Nazareth de Franco Zeffirelli, parfaitement conforme, lui, au Nouveau Testament. Là, il s'agit de la troisième Madeleine, la pécheresse, la prostituée. C'est cela, Régis Burnet.
Oui, c'est-à-dire que c'est dans un épisode un peu semblable à celui de Marie de Béthanie, sauf que Marie de Béthanie n'est pas explicitement désignée comme une pécheresse, alors que là, c'est effectivement une prostituée qui répand du parfum aux pieds de Jésus, et Jésus, là, lui remet ses péchés, lui pardonne.
Alors, laquelle de ces trois Marie de Magdala, Marie de Béthanie ou la pécheresse est la véritable Marie-Madeleine, Régis Burnet? Parce que je crois que pendant plusieurs siècles, on a les chrétiens, les premiers chrétiens ont distingué les trois.
J'ai envie de dire aucune. C'est-à-dire que soit vous êtes dans la tradition chrétienne, alors pas des six premiers siècles, mais après, où on dit, en fait, les trois Maries ne forment qu'une seule, soit alors vous êtes plus dans une exégèse contemporaine, c'est-à-dire qui commence plutôt dans le milieu des années 50, et on vous dit la vraie Marie, c'est Marie de Magdala, c'est celle qui est au pied de la croix.
Alors cela dit, j'ai dit que les trois étaient distinctes pendant les six premiers siècles, jusqu'à ce qu'un pape, Grégoire Ier, Grégoire le Grand, décide au VIe siècle de les réunir en une seule et même personne, c'est ça?
C'est ça, il fait une sorte de coup de force qui est, exégétiquement pas très juste, c'est-à-dire que dans la Bible il y a quand même trois Maries, mais théologiquement très intéressant. Parce que lui a besoin d'une figure qui soit à la fois une figure de pardon et une figure de fidélité. Puisqu'il se trouve dans une période extrêmement troublée, l'Église est déchirée par des hérésies, et lui veut rétablir l'unité. Et donc il a besoin de quelqu'un qui soit à la fois très fidèle, donc au pied de la croix, etc., mais aussi qui soit une image du pardon. Et donc en mêlant à la fois Marie de Magdala au pied de la croix et la pécheresse pardonnée, il a une seule figure qui pour lui représente l'Église.
La fidélité, effectivement, c'est vraiment le pardon de la pécheresse, la réconciliation, mais la fidélité, c'est vrai que c'est la fameuse scène où elle se trouve, où elle est pratiquement seule avec Marie, la mère de Jésus, au pied de la croix, alors il faut le rappeler que selon les évangiles, tous les apôtres ont foutu le camp, où ils ont trahi, où ils ont renié Jésus.
Ah oui, elle fait partie des saintes femmes. Le christianisme est avant tout, et ça Renan le disait très bien, c'est avant tout une religion de femmes avant d'être une religion d'hommes.
Mmh. Et puis alors elle est surtout le témoin de la résurrection du Christ quand elle arrive devant le tombeau du Christ et constate qu'elle n'y trouve plus personne.
Étranger! Étranger! Écoute, est-ce qu'ils l'ont caché? Réponds-moi, je veux l'ensevelir.
Femme, pourquoi pleures-tu?
Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur. Je ne sais où ils l'ont mis.
Madeleine.
Oh, maître, c'est toi.
Ne me touche pas, car je ne suis pas encore montée vers mon Père. Mais rejoins mes disciples. Dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père. Vers mon Dieu et votre Dieu. Mais avant, j'irai me montrer à eux en Galilée. Là, ils me verront.
Il est ressuscité.
D'histoire aujourd'hui, une émission consacrée à Marie-Madeleine et une belle chanson qu'on entend, hélas, malheureuse et infortunée que je suis, une chanson du XVIIe siècle dédiée à Marie-Madeleine, premier témoin, on l'a entendu, de la résurrection du Christ, ce qui fait d'elle en quelque sorte la première chrétienne. Vous dites même, Régis Burnet, que sans elle, le christianisme n'existerait pas. Moi, je crois que c'était le Christ qui avait fait le christianisme, pas Marie-Madeleine.
C'est pas moi qui ai dit ça, parce qu'encore une fois, je fais pas une biographie de Marie-Madeleine. Les dominicains au XIIIe, XIVe siècle qui en ont fait leur sainte patronne, puisque c'est la première des apôtres, puisque un apôtre dans le christianisme, c'est celui ou celle qui annonce l'évangile, qui est en fait le fait de la résurrection du Christ.
Alors que les apôtres, on l'a entendu aussi, et ça les évangiles le disent, n'y croyaient pas au début à cette résurrection.
Oui, absolument.
Elle est la seule à y croire.
Elle est la seule à y croire, et donc très souvent, on l'a désignée sous le terme d'apôtre des apôtres. C'est celle qui évangélise les évangélisateurs.
Alors ce qui est curieux, c'est que Régis Burnet, c'est que finalement, elle apparaît assez peu dans les évangiles authentiques, ceux que l'on trouve dans la Bible, et elle est beaucoup plus présente dans des évangiles apocryphes, dont certains textes peuvent scandaliser. On a entendu le texte de l'évangile de Philippe qui dit que Jésus l'embrassait souvent sur la bouche. D'abord, rappelez-nous ce que sont ces évangiles apocryphes.
Alors, les évangiles apocryphes, c'est en fait les évangiles venus d'autres traditions que la tradition de l'Église majoritaire. Si vous voulez, le christianisme à l'époque, lors de son enfance, si on peut dire, était très morcelé. Chaque communauté avait sa propre théologie, sa propre doctrine, avec une certaine unité quand même, et a produit ses propres textes. Et donc, dans les premiers siècles, il y a eu une multiplicité d'évangiles. Certains ont été retenus, on les a déclarés canoniques, d'autres n'ont pas été retenus, ce sont les apocryphes.
Alors justement, parmi eux, il y a l'évangile apocryphe de Philippe, le texte, on l'a entendu au tout début, le Seigneur aimait Marie plus que tous les disciples et l'embrassait souvent sur la bouche. Là, c'est un Jésus beaucoup plus charnel que l'on trouve dans ces apocryphes qui n'ont pas été placés dans la Bible. D'ailleurs, qui a décidé, au fond, que certains évangiles, les quatre évangiles du Nouveau Testament, s'y trouveraient et pas les évangiles apocryphes?
Alors, ne me faites pas le coup de Dan Brown, qui prétend
dit que c'est Constantin.
Ouais. En fait, il n'y a pas eu de décision canonique avant le concile de Florence, donc on est au 15e siècle. Donc on a mis 1500 ans avant de les fixer. En fait, ce qui s'est passé, c'est simplement l'usage. Vous savez qu'on est dans une civilisation où l'écrit coûte cher, enfin où il faut recopier, et donc petit à petit, on a recopié que les textes qu'on utilisait le plus souvent, et donc on a laissé tomber les autres. Et cette canonisation, c'est plutôt fait par l'usage des textes.
Parce que ce que dit Dan Brown aussi, c'est qu'au fond, on voulait écarter l'importance, le rôle important, considérable de Marie-Madeleine auprès du Christ, au point d'ailleurs que, toujours selon dans l'évangile de Philippe, au point que Pierre et les disciples en auraient été jaloux. « Pourquoi l'aimes-tu plus que nous ?» demandent les disciples, les apôtres à Jésus. Et au fond, on a presque l'impression que c'est un acte un peu de macho que de vouloir écarter une femme qui avait joué un rôle aussi considérable dans la vie de Jésus.
Alors, c'est possible. C'est possible qu'il y ait une... Enfin, que dans la tradition, on ait un peu négligé Marie-Madeleine parce qu'elle était une femme. Mais là, il faut voir que c'est plutôt le rôle, une sorte de rôle symbolique. C'est-à-dire que Pierre représente la grande église. Pierre représente l'église qui est en train de s'organiser. Et l'évangile de Philippe vient d'une communauté qui est plutôt marginale. Et donc, il s'est choisi une apôtre féminine, si on peut dire, une apôtre féminine, qui est Marie-Madeleine. Et donc, dans ce combat, enfin dans cette rivalité entre Marie-Madeleine et le Pierre, il faut plutôt y lire symboliquement la rivalité entre l'église de Philippe, minoritaire, et la grande église de Pierre, majoritaire.
En tout cas, dans ces apocryphes, eh bien, qui n'apparaissent pas en les supprimant de la Bible, on élimine du même coup, justement, un Christ un peu trop charnel, trop humain, comme celui, d'ailleurs, d'un film très controversé, inspiré du roman de Nikos Kazantzakis, La dernière tentation du Christ, dans laquelle Scorsese avait fait scandale en imaginant Jésus marié avec Marie-Madeleine. Scorsese allait même plus loin, en lui prêtant une autre épouse et des enfants après la mort de Marie-Madeleine.
S'il n'était pas juste que Dieu l'enlève aussi.
Aie confiance dans la voix de Dieu. Écoute, Marie-Madeleine est morte. Mais Marie, sœur de Lazare, est vivante. C'est Marie-Madeleine avec un autre visage. Elle porte en elle la plus grande de tes joies. C'est par cette voie que le Sauveur vient en toi. Graduellement, d'étreinte en étreinte, de fils en fils. C'est cela, la route.
Je comprends. Je suis honteux quand j'y pense.
À quoi ?
À toutes les fautes que j'ai commises. À toutes les fausses routes sur lesquelles j'ai cherché Dieu.
C'était un extrait de La dernière tentation du Christ, avec un Christ ayant des enfants, un Christ très charnel, un Christ dont Marie-Madeleine aurait été la maîtresse, et puis ensuite Marie de Bethany. Un film qui avait fait scandale dans les années 80, je crois qu'il est sorti en 88, Régis Burnet. Vous considérez que c'est un peu injustifié, le scandale provoqué par ce film. Pourtant, il y a de quoi décoiffer, hein, comme on dit.
D'abord, c'est un très beau film, et en plus, ça se termine plutôt bien pour le christianisme, puisque d'une certaine façon, à la fin, Jésus remonte sur sa croix.
Oui, l'épisode en fait intervient au moment où il est sur la croix, il est crucifié, il descend, il y a un ange qui vient le chercher, il se marie avec Marie-Madeleine, puis ensuite il a une vie avec d'autres maris, et puis il regrette tout ça, il remonte sur la croix. Mais enfin
oui,
quand même.
C'est-à-dire que c'est la tentation, mais la tentation a été surmontée, puisque oui. Il finit par remonter sur la croix. Donc c'est tout à fait au contraire, c'est même tout ce qu'il y a de plus orthodoxe.
Alors cela dit, c'est un Christ assez charnel. Il faut rappeler que c'est un très vieux débat dans l'Église, que de savoir quelle est la nature réelle du Christ. Est-il un homme? Est-il un Dieu? Et ça, dès les débuts du christianisme, on s'est posé la question, Régis Burnet.
Oui, c'est-à-dire que c'est la question de savoir, puisque le Christ est une sorte de mi-chemin entre l'homme et Dieu. Vous savez, dans la théologie chrétienne, il est pleinement homme et pleinement Dieu. Alors, s'il est pleinement homme, pourquoi ne connaît-il pas de relations sexuelles? Voilà. Et donc, c'est une question court les siècles pendant, qui ressurgit tout le temps lorsqu'on essaie de définir la nature humaine du Christ.
Alors on en revient à Marie-Madeleine, parce que il y a plusieurs mystères, hein. A-t-elle été ou non la préférée du Christ, pour ne pas dire plus? Il y a aussi un mystère sur ce qu'elle est devenue après la résurrection. Là, on n'en sait pas grand-chose non plus.
Alors, on ne sait rien historiquement. Ça, c'est une évidence. Les vies que l'on connaît sont en fait des vies qui datent du 7e, 8e et surtout 10e, 11e siècle, au moment de la grande mode de Marie-Madeleine, en particulier à Vézelay. Donc, ce sont des vies de saints, des petites vies de saints. On nous explique qu'elle s'enfuit après la mort du Christ et elle est poussée poussé par un vaisseau sans rame, sans gouvernail et sans voile vers les rives de la Méditerranée, à travers la Méditerranée vers les rives de France, et qu'elle s'établit autour de Marseille, et qu'elle finit sa vie à la Sainte-Baume dans une retraite pieuse, étant soutenue par les anges tous les jours montant dans les cieux pour y recevoir le message de Dieu. Donc une vie extrêmement pieuse.
Et repentante, etc. Alors, cela dit, vous avez cité également une autre ville qui se réclame de Marie-Madeleine, c'est Vézelay. Alors, Vézelay, c'est là que se seraient trouvées, à un moment donné, c'est selon un moine du XIe siècle, les reliques de Marie-Madeleine, c'est cela?
Alors, c'est...
Est-ce qu'elle est passée à Vézelay? On n'en sait rien, vous me direz.
Oui, on n'en a aucune idée. Vézelay, c'est un cas très intéressant pour ceux qui s'occupent du culte des saints, puisque... À un certain moment, si vous voulez, Vézelay élit un abbé très ambitieux. À l'époque, Vézelay, c'est un trou, pour s'exprimer un peu vulgairement, et sans doute quelqu'un de très ambitieux qui est très mari d'être l'abbé de ce petit monastère, et qui a une idée absolument géniale, qui est de créer un pèlerinage. Et donc, il invente des reliques. Alors, est-ce que c'est dans les deux sens du mot inventé, c'est-à-dire des productions des reliques devant le peuple, ou est-ce que c'est vraiment une invention, il se crée un corps c'est difficile à le savoir, mais toujours est-il qu'on peut dater de manière très précise le début du pèlerinage de Vézelay et cette création de reliques. Et justement, tous ces récits de la Sainte-Baume, de pourquoi Marie-Madeleine a pu échouer sur les rivages de France, sont organisés, remis en forme à ce moment-là, justement pour expliquer pourquoi Marie-Madeleine se trouve à Vézelay. Oui. Et donc, voilà, le pèlerinage naît, mais ce qui est assez amusant, c'est qu'il se suscite aussi un concurrent quasiment immédiatement, puisque les gens de la Sainte-Baume se disent, mais c'est pas possible, enfin, ça marche à Vézelay, pourquoi ça marcherait pas chez nous?
Il faut rappeler que les reliques, ça faisait venir du monde, hein. c'était un motif de tourisme important, si on peut employer le mot de tourisme à l'époque.
C'est le Vézelay est l'un des plus grands centres de l'Occident. La croisade est prêchée à Vézelay par Saint Bernard, et c'est l'un des points les plus importants de France.
Elle a inspiré, Marie-Madeleine, des quantités de peintres. Par exemple, votre livre en couverture, un très très beau tableau de Georges de la Tour, et il y a des quantités de peintures. C'est peut-être un des personnages de la Bible les plus représentés en peinture.
Alors, pour plusieurs raisons... À l'époque du Moyen-Âge, comme je l'ai dit, c'est les dominicains et franciscains qui en font leur sainte patronne. Donc on la représente comme l'apôtre des apôtres. Et puis, au XVIe, XVIIe siècle, au moment de la contre-réforme, on s'en sert surtout pour promouvoir le sacrement du pardon des péchés, et on la représente plutôt pénitente, et donc les Madeleines de la Tour sont tout à fait caractéristiques de ça, où on la voit une femme belle éclairée par
toujours belle avec des longs cheveux,
avec des longs
c'est
cheveux.
Comme ça qu'elle est toujours représentée,
oui, c'est les cheveux avec lesquels elle a essuyé les pieds du Christ, et c'est aussi les cheveux de son péché d'une certaine façon. Et donc elle est très fréquemment représentée parce que on s'en est beaucoup servi d'une certaine façon.
Oui, justement, c'est ce que vous dites, on se l'arrache un peu partout. Vous dites à un moment donné qu'un saint, ça sert toujours à quelque chose, à transmettre des valeurs. À quoi sert Marie-Madeleine et quelles valeurs incarne-t-elle, Régis Burnet?
Alors, la Marie-Madeleine classique, c'est clair, c'est une figure de la repentance. C'est-à-dire que on la prend comme la pécheresse pardonnée, et donc c'est le sens des tableaux de la Tour, c'est le sens de toutes les méditations, en particulier celle du cardinal de Bérulle, qui a fait une très belle élévation sur Marie-Madeleine. Ça, c'est la Marie-Madeleine classique. La Marie-Madeleine moderne, c'est-à-dire celle qu'on retrouve...
Mais attendez, la classique, vous évoquez quelque chose, avant de devenir la Marie-Madeleine moderne, vous évoquez quelque chose, c'est que cette repentance a poussé, par exemple, à la création de maisons où l'on envoie des filles dites perdues, comme on disait autrefois, pour justement se repentir. Il y avait en France les filles de la Madeleine, ou les Madelonnettes, hein, qui avaient été créées, et qui avaient accueilli d'ailleurs, je crois, Ninon de l'Enclos et Madeleine de Chavigny, qui avaient servi au personnage de Manon Lescaut. Donc là, on venait, de même qu'en Irlande, il y a des établissements comme ça, où on recevait des jeunes femmes, très, très rigoureusement d'ailleurs, et qui étaient considérées comme des filles perdues.
C'est ça, c'est-à-dire qu'au début, c'était une sorte sorte de lieu de charité où on recueillait les prostituées de la rue, et puis petit à petit c'est devenu une sorte de carcan assez victorien. C'est parce que en fait en France ça a plutôt périclité, alors que dans le monde anglo-saxon c'est devenu une sorte de protection de la société victorienne, au point même que le mot Magdalene dans l'anglais victorien désigne la prostituée.
Alors justement, la conception moderne, c'est au fond, vous le dites de cette manière, elle incarne la mise à l'écart des femmes, elle est au fond l'emblème de toutes les femmes qui désirent qu'elles puisse être ordonnée prêtre, ce que l'Église interdit encore à cette femme, Marie-Madeleine, qui était une figure de proue de l'Église des premiers temps.
C'est ça, c'est la Marie-Madeleine moderne, qui est une Marie-Madeleine féministe, on peut dire, d'une certaine façon, qui symbolise tout l'oppression de la femme, parce que les exégètes ne cessent de dire, voyez, elle était auprès de Jésus, elle était la plus importante, et on a les hommes l'ont écarté, ont tout fait pour lui donner moins d'importance, et donc maintenant elle est devenue d'une certaine façon une icône féministe.
Je vous remercie Régis Burnet de nous avoir rappelé donc qui était la véritable Marie-Madeleine, pourtant sans savoir. Vous le faites aussi dans un livre passionnant, Marie-Madeleine, de la pécheresse repentie à l'épouse de Jésus, qui vient de paraître aux éditions du Cerf. Vous êtes également l'auteur d'un Que sais-je, le Nouveau Testament, dont vous êtes un spécialiste. À lire également La vie des saints à travers 100 chefs-d'œuvre de la peinture de Jacques Duquesne et François Lebret, un beau livre qui vient de paraître aux presses de la Renaissance. Ces références sont disponibles au 32-30, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci Olivier Riotor, Ludovic Asselot, Claire Destacan, Pierre Tesser et Cédric Joseph Julien, ainsi qu'à Nathalie Salle pour la réalisation.